Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
La recherche fondamentale, la physique, a toujours été une passion hein, depuis, disons, depuis l'adolescence. Donc, vous voyez, les connaissances, la connaissance de l'histoire de l'univers, c'est un peu ce que je vais raconter, c'est ça qui est motivant et qui me fait avancer.
Bonjour, avec la complicité de Daniel Verling, nous accompagnons dans la rue Yves Sirois, directeur de recherche au CNRS. Yves Sirois est intervenu dans le cadre du cycle de conférences de la Société d'astronomie de Nantes sur le thème « Boson de Higgs, symétrie et substance de la matière ».
J'ai toujours été assez intéressé ou passionné par les sciences, en tout cas très très jeune, par les mathématiques et ensuite... par la physique, donc j'avais l'habitude, étant jeune, d'aller assister à des conférences. Et quand j'étais jeune, j'écoutais par exemple Hubert Reeves, qui commençait sa carrière de vulgarisateur. Et ça a toujours été pour moi quelque chose d'extraordinairement fascinant, disons, d'essayer de comprendre par quelle règle simple la nature arrive à reconstituer une structure aussi complexe. Donc ça, c'est... toujours été fasciné.
C'est pas commun hein, quand on est jeune d'avoir cette curiosité.
Ben oui, il y a toutes sortes d'épisodes ou d'accidents de la vie qui fait qu'on choisit une voie plutôt qu'une autre. Je viens d'une famille qui est plutôt une famille du côté en tout cas de ma mère et mes frères et sœurs plutôt artistes, disons. Ma mère était artiste peintre, faisait de la sculpture. Beaucoup chez mes frères et mes sœurs ont fait la même chose et moi on se distingue quand on est jeune, donc comme j'avais un certain talent en mathématiques, j'étais assez rapidement, disons, entraîné aussi à aimer ça et c'est devenu ensuite une passion. Donc je me suis aperçu très jeune de la puissance extraordinaire et presque mystérieuse des mathématiques à décrire le réel. Donc voilà.
En quelque sorte, vous étiez un électron libre dans votre famille, non ?
Oui, c'est ça. Donc j'avais une famille assez nombreuse, donc on a toujours besoin de faire sa place. Et ça se traduit souvent par le fait qu'on se distingue sur certains éléments. Donc je faisais d'une part de la musique et d'autre part de la physique. C'était vraiment les deux pans. Assez jeune, effectivement, je me suis dirigé vers les sciences. Et en particulier les sciences, disons, un peu plus abstraites au départ et ensuite sur la physique en tant qu'expérimentateur. Rien n'est tout à fait complètement déterminé. En fait, la physique à laquelle je songeais quand j'étais jeune, quand j'ai commencé la physique à l'université, elle est très, très, très différente de celle que je fais maintenant. Et ensuite, encore une fois, il y a des coïncidences qui font qu'on se retrouve ici ou là. Donc, je suis parti assez jeune, en fait, pour ma thèse de doctorat au CERN à Genève. Et c'est une thèse à l'Université McGill à Montréal. Mais j'ai passé l'essentiel de mes années au CERN. Et en fait, je ne suis jamais retourné au Québec après. J'ai eu un poste à DAISY et ensuite à l'École Polytechnique à Paris. Et j'ai travaillé longtemps à DAISY, Hambourg, dans un collisionneur qui étudie la structure du proton. Et ensuite, je suis de retour au CERN depuis à peu près une dizaine d'années.
La pertinence de votre intervention dans le cadre d'un cycle de conférences organisé par une société d'astronomie ?
Ben, la découverte dont je vais parler aujourd'hui, elle a un impact absolument colossal sur notre récit de l'histoire de l'univers. Je vais placer la découverte, qui en soi est une découverte de nouvelles particules, mais celle-là elle a un rôle extraordinairement important. Et je vais raconter comment c'est lié de façon fondamentale à l'histoire de l'univers, à l'apparition de la mer, à l'apparition de la matière, comment ça rejoint aussi la physique éventuellement à l'échelle de Planck. Donc tout ça est assez fascinant en fait. Donc je pense que pour des gens intéressés par l'astronomie ou la cosmologie, c'est tout à fait pertinent.
Ce fameux boson de Higgs,
oui.
C'est d'abord un élément de calcul.
Ah, moi, je ne le présente pas comme ça du tout. En fait, j'ai entendu des gens de d'autres domaines commenter qu'après tout, ce n'était qu'un boson et tout. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est lié à une révolution conceptuelle très profonde, qui est le fait que l'on considère maintenant qu'il existe une espèce de réalité sous-jacente. Et cette réalité sous-jacente, le boson de Higgs, le champ associé au boson de Higgs en fait partie. Et en fait, c'est ce champ qui plus ou moins régule le fait que les particules aient une masse. Et il pourrait avoir contribué aussi de façon importante à une période importante de tout début de l'univers, à la structure, à l'inflation par exemple. C'est pas exactement, on n'est pas sûr que c'est exactement ce champ-là, mais en tout cas c'est de ce type-là. C'est une nouvelle interaction. C'est une interaction qui diffère de toutes les autres interactions. C'est la seule interaction qui n'est pas une interaction de jauge, c'est-à-dire qu'elle est complètement différente des autres. Toutes les autres interactions ont la masse des particules plus ou moins protégée par des symétries. Ce n'est pas le cas du boson de Higgs. Et pour cette raison-là, il a une tendance à se connecter assez facilement aux échelles les plus petites, aux énergies les plus grandes. Par exemple, à l'échelle de Planck. Donc, tout ça est assez fascinant et très, très intéressant. C'est plus qu'une nouvelle particule. C'est plus qu'une nouvelle interaction. C'est quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Un espèce de machin étrange dans la théorie. Et qui est assez... beaucoup de théoriciens, jusqu'à la découverte, pensaient vraiment que finalement on ne le trouverait pas parce que c'est un objet trop, trop bizarre.
Vous dites on l'a découvert.
Oui, oui, absolument, oui.
Bon, on y reviendra. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu imaginer, on s'est décentré?
Non, c'est en fait, dans ma présentation, je fais... pas de concession, c'est-à-dire que il n'y a pas d'équation. Je dis en mots simples ce que les gens disent jamais quand ils font de la vulgarisation parce qu'ils considèrent que les gens ne peuvent pas suivre. Et j'espère que les gens suivront. Je l'ai déjà raconté ailleurs et les gens avaient l'air de comprendre. Il se trouve que quand on regarde la théorie fondamentale, elle impose de façon absolument irrévocable le fait que les interactions, ce sont des choses qui se produisent localement, en un point d'espace-temps. Et ensuite, l'interaction est véhiculée par une particule, un boson par exemple, qui se propage de façon virtuelle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas détecter dans le monde réel et qui interagit en un autre point d'espace-temps. C'est comme ça que ça se passe, une interaction. Et en fait, ces interactions-là, d'après la théorie fondamentale, ne peuvent que se faire qu'en respectant le fait que toutes les particules doivent être de masse nulle. On ne peut pas avoir de masse. Et en fait, on peut générer, on peut à quelque part inventer ou même prédire l'existence des interactions seulement par des symétries fondamentales, dont cette symétrie locale. Et en fait, il faut la préserver à tout prix, sinon on perd les interactions. On ne sait plus générer, on ne sait plus inventer les interactions. Là, je parle de l'électromagnétisme, l'interaction forte, l'interaction nucléaire. Pour générer ces interactions, il faut cette symétrie-là. Donc, il faut la préserver. Donc, on a cherché des moyens de la briser sans porter atteinte à la théorie fondamentale. Et ce champ de Higgs, il permet exactement cela. Donc, on peut dire que les particules qui se propagent dans le vide physique subissent une interaction avec ce champ, et c'est ce qui les rend massives. Et le fait, de façon fondamentale dans la théorie, ça reste des particules de masse nulle. Mais dès qu'elles se propagent dans le vide physique, elles deviennent massives. Comme ça, on préserve les symétries fondamentales, donc on peut inventer des interactions. Et on peut aussi avoir un mécanisme qui permet à la matière d'être massive.
Je comprends qu'on essaye de faire coller à la théorie fondamentale, on n'essaye pas de proposer un nouveau modèle.
Ces symétries-là découlent du mariage entre la relativité et la mécanique quantique. Ce sont des principes de symétrie extraordinairement puissants et extraordinairement fondamentaux. Et comme on n'avait rien vu jusqu'au presque au dernier moment, les gens commençaient à se dire « tant pis, ça veut dire qu'on abandonne tout un développement, une histoire sur plusieurs siècles de développement mathématique et physique. Hein. » Mais les gens étaient presque prêts à l'abandonner, considérant le fait qu'on ne voyait rien. Mais ça voulait aussi dire qu'on n'est plus capable de parler ou de même discuter ou même d'imaginer d'aller vers l'infiniment petit. Parce que la théorie devenait absurde à l'échelle du TEV, à l'échelle observable au LHC dans quelques années. Donc en fait, ce nouveau boson, il permet aussi de sauver la théorie. On dit dans notre jargon qu'il la régularise, il permet de faire des calculs presque, en principe, théoriquement, jusqu'à l'échelle de Planck. Donc on a sauvé aussi la notion d'unification des interactions fondamentales. Donc ça, c'est vraiment très, très profond. À la question, est-ce qu'on avait des alternatives, tout le monde a regardé pendant 50 ans pour des alternatives. Aucune n'a été trouvée aussi bonne, mais on continuait à regarder jusqu'au dernier moment. J'ai croisé des théoriciens la nuit, l'avant-veille, avant qu'on ouvre l'accès à la plage de données la plus critique. Et je dirais que la majorité pensait qu'on ne trouverait rien et que c'était la fin, plus ou moins, de cette aventure scientifique qui a commencé avec Maxwell, qui s'est poursuivie avec Einstein et la mécanique quantique et tout ça.
Oui. À l'intérieur de la cour du château.
Ah oui.
Profitez-en, je fais guide touristique en même temps. Mais j'ai perdu ma question.
Vous me demandiez s'il y avait des alternatives.
Oui, oui, oui.
Et je disais qu'il y a des alternatives. Et toutes les alternatives imposaient d'inventer une physique plus ou moins justifiée qui permettrait de remplacer la théorie qui devenait, qui était automatiquement falsifiée à l'échelle du thème. Donc la théorie, ce qu'on appelle le modèle standard, qui est une théorie extraordinairement prédictive puisqu'elle explique la totalité de tous les faits observés en physique sauf l'interaction gravitationnelle. Cette théorie-là, elle porte en son sein les éléments de sa faillite à l'échelle du TEV s'il n'y a pas quelque chose pour la régulariser. Et c'est ce que fait ce nouveau boson. Donc plein de gens ont travaillé sur plein d'alternatives. Il se trouve qu'aucune alternative le faisait de façon exacte. Elle ne faisait essentiellement que repousser le problème à des échelles d'énergie plus élevées, mais sans jamais résoudre le problème. Seul le boson de Higgs, tel qu'il a été trouvé, seule la théorie avec le champ de Higgs, permet de solutionner le problème de façon exacte. Mais, je répète, ça a introduit dans la théorie cet objet totalement bizarre, qui n'est ni vraiment une particule, ni vraiment une interaction, et qui pose en elle-même aussi énormément de problèmes.
Quand on la présente comme la plus petite particule, en fait, c'est faux. Enfin, plus petite ou c'est la plus petite du moment?
Je ferai très attention ce soir de ne pas parler ce genre de pas parler dans ces termes-là. On parle souvent de physique des particules comme étant aller vers le plus petit ou l'infiniment petit. En fait, c'est pas ça qui est le plus pertinent. Ce qui est pertinent, c'est que les petites distances impliquent des hautes énergies. Et en fait, je préfère parler de physique des hautes énergies et je ne parle pas de taille. On ne peut pas dire qu'une particule est plus petite qu'une autre. L'image classique d'une particule comme un point sans dimension et tout ça est révolue. Hein. Donc, je ne parlerai pas de particule vraiment. Je vais expliquer pourquoi et par quoi c'est remplacé. Et c'est beaucoup plus intéressant de parler dans ces nouveaux termes. Et c'est vrai qu'on en parle très, très peu. Donc, les gens ont encore en tête les leptons, les quarks et la structure de la matière. Je ne vais pas tellement parler de structure de la matière, je vais expliquer pourquoi. Ce n'est pas ça qui est le plus fondamental.
Alors, on parle
de champ.
De champ.
Donc, toutes les particules, sans exception, les électrons, les bosons, sont des champs. Et ils ont des propriétés quantiques différentes, mais ils sont fondamentalement constitués de la même chose. C'est une espèce de trame dans l'espace-temps, et ce sont des champs. Donc, il y a une... Conceptuellement, il n'y a pas cette distinction, disons, classique entre l'interaction et la particule de matière, si ce n'est que l'une est un fermion, donc est sujette à ne pas pouvoir, on ne peut pas avoir deux fermions dans le même état quantique, alors que les bosons ont tendance à s'accumuler, ce qui donne à l'origine des interactions.
Quand on dit qu'on a observé, mesuré, on dit quoi?
Ben, au début, on a observé une nouvelle particule. Ensuite, on s'est rapidement convaincu que c'était un boson par les modes de désintégration. Et ensuite, on s'est demandé si c'était un boson de Higgs. Et pour savoir si c'est un boson de Higgs, ben là, la théorie est extraordinairement prédictive. Alors qu'on ne connaît pas la masse, la masse est un élément aussi extrêmement important et des conséquences particulières de cette valeur de masse-là qui sont vraiment hallucinantes. Mais la masse n'est pas connue a priori. Et on n'aurait pas pu prédire qu'elle était là. Une fois qu'on a trouvé donc cette masse, on a trouvé un excès d'événements, une certaine masse, la théorie est très prédictive, donc on connaît exactement ce à quoi s'attendre en termes de mode d'observation et de mode de désintégration. Donc on a construit les détecteurs qu'il fallait pour ça. Il reste ensuite à vérifier que la production et la désintégration est conforme à la théorie.
Nous accompagnons dans la rue Yves Sirois, directeur de recherche au CNRS. Thank you.
Et là, on a annoncé la confirmation que tous les éléments mesurés sont conformes à ce qui est attendu par rapport à la théorie. Donc, c'est un boson de Higgs, maintenant on le dit. On ne sait pas si c'est le boson de Higgs. Et la différence, c'est qu'il y a d'autres théories qui possèdent un objet semblable, mais aussi quelque chose d'un peu plus complexe, une structure plus complexe. Et on ne sait pas encore si celui-là, c'est le boson d'une théorie minimale, et disons, entre guillemets, ça serait la fin, c'est-à-dire que la théorie maintenant fonctionne et on n'a aucune autre piste. Mais ça peut aussi être le boson le plus léger d'une théorie au-delà du modèle standard. Par exemple, les théories supersymétriques ont un boson le plus léger qui est exactement semblable au boson de la théorie minimale. Donc pour ça, il faut vraiment plus de précision. Continuer aussi la recherche de nouvelles particules. Quand je parle de supersymétrie, c'est une espèce d'univers miroir où tous les bosons ont des partenaires qui sont des fermions et tous les fermions ont des partenaires qui sont des bosons. Il existe donc toute une nouvelle famille de particules, une espèce de miroir de l'univers ordinaire. Et pour l'instant, on n'en a pas observé, mais on a encore des plages de paramètres où ces théories pourraient être cachées. Considérant l'endroit où la nature avait caché son premier trésor le plus précieux, le boson de Higgs, on est prêt à tout maintenant. Donc on croit qu'il y a encore des possibilités à haute énergie de mettre la main sur quelque chose d'encore plus fascinant, comme la supersymétrie.
Vous avez en partie anticipé mon autre question. Oui. Il y a donc une mesure, une détection.
Il y a plus qu'une mesure.
Il y a des erreurs aussi sur les mesures.
C'est, oui, c'est contesté. Mais il y a en gros quatre façons de produire le boson de Higgs au LHC et cinq modes de désintégration principaux, ce qui fait une vingtaine de combinaisons. Et on a observé certaines de ces combinaisons, et pas toutes encore, et certaines de ces combinaisons production de désintégration sont particulièrement sensibles à certains éléments de la théorie. Et en fait, comme on observe soit déjà l'équivalent d'une découverte même dans chaque canal séparé, ou soit au moins une évidence d'un excès important à plusieurs écarts standards dans plusieurs canaux, la combinaison globale de toutes ces informations-là nous permet de contraindre vraiment très fortement la théorie. Et en fait, l'ensemble de ces résultats est suffisamment conforme pour qu'il n'y ait plus de doute sur le fait qu'il s'agit d'un boson de Higgs, mais pas suffisante encore pour savoir s'il s'agit du boson de Higgs de la théorie spécifique. Donc on a encore des fenêtres de possibles. Quand vous parlez de marge d'erreur, ça correspond effectivement à aller cacher dans les incertitudes des déviations qui seront observées quand on aura plus de précision. On a encore d'autres modes à observer aussi. Le couplage du... Le boson de Higgs donne la masse à toutes les particules et entre autres au lepton, l'électron ou l'électron lourd, qu'on appelle le muon ou encore plus lourd, qu'on appelle le tau. Il y a trois familles de leptons. Ce sont exactement comme des électrons, sauf qu'ils sont plus lourds. La seule différence entre un électron muon et un lepton tau, la seule et unique différence, c'est que c'est le couplage au boson de Higgs. Autrement, pour le reste de la physique, tout est exactement similaire entre ces particules. Et donc, on veut observer comme le Higgs se couple à la masse, la désintégration du boson de Higgs dans les leptons les plus lourds. Par exemple, le lepton tau, qui est une espèce d'électron lourd. Ça, on a déjà une évidence. On a déjà trois écarts standards. Une chance sur 1000 à peu près que ce soit une fluctuation aléatoire. Le couplage au mu, c'est beaucoup plus difficile, ça sera beaucoup plus long, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. On peut avoir des surprises aussi, on pourrait se retrouver avec quelque chose à court terme, mais en tout cas, en principe, ça va être beaucoup plus difficile. Le couplage aux électrons, c'est impossible. Donc, il y aura toujours des petites failles, parce qu'il y a des choses qui sont carrément inobservables, mais c'est un faisceau convergent. Hein. Dans n'importe quel jury populaire, n'importe quelle cour d'assises, on déclarait que là, on a découvert le boson de Higgs. Faites toujours ça, il n'y a aucun moment où une théorie peut être démontrée vraie. Ça n'existe pas en science. On peut éventuellement la falsifier, on peut démontrer qu'une théorie est démontrée fausse parce qu'on trouve un nouveau fait expérimental, mais la théorie n'est jamais démontrée vraie. Donc elle est vraie jusqu'à un certain niveau, et quand on a atteint un certain niveau de confiance compte tenu de l'ensemble des faits, on considère que la théorie est validée, et là, la théorie, l'existence d'un boson de Higgs est une théorie validée au-delà de toute considération. Hein. Là, on parle de chances sur dizaines de millions que ce soit simplement une fluctuation aléatoire. Il s'agit d'un fait, disons, considéré comme irréfutable du point de vue de la science, hein, reproductible et irréfutable.
Thank you.
peut dire un mot sur ce grand détecteur souterrain?
Écoutez, c'est une machine qui a été pensée il y a vraiment très très longtemps, plus de 30 ans, dont l'acceptation date à peu près d'une vingtaine d'années. C'est une machine où on avait déjà creusé un tunnel pour une machine précédente, en fait. Et on savait déjà, on avait déjà en tête qu'on ferait ce collisionnaire. C'est largement sous l'impulsion de Carlo Rubbia, le prix Nobel de physique pour la découverte du boson ZW, que l'idée d'une étape où on construisait une première machine pour explorer la physique dans le secteur électrofaible, et ensuite une deuxième étape où on construisait un grand collisionnaire. Cette idée-là a germé il y a déjà plus de 30 ans. Les détecteurs, ben, c'est une vingtaine d'années de construction, de bijoux de technologie, disons, avec des paris technologiques vraiment extraordinairement ambitieux, puisqu'on savait qu'on construirait et qu'on développerait sur une vingtaine d'années. Donc il fallait faire des paris sur l'évolution des technologies. Et on a organisé la séquence de construction pour essentiellement arriver pile poil au moment le plus opportun pour s'emparer des nouvelles technologies et contribuer nous-mêmes à en développer. On savait que ce serait difficile parce qu'il faut environ 10 puissance 12, donc un millier de milliards de collisions pour voir un événement correspondant à un boson de Higgs. Donc il faut énormément de collisions de très haute énergie. Et donc on savait que ce serait extrêmement difficile. Ce sont des détecteurs qui, si on veut résumer de façon, mais c'est vraiment très résumé, prennent des photos à tous les 25 nanosecondes ou 50 nanosecondes, donc 10 puissance moins 9, donc un millième de millionième de seconde, un milliardième de seconde en fait. Ils prennent des photos avec un appareil photo qui a environ 100 millions de canaux, mais pas seulement digital, analogique. Donc on voit les traces des particules, on reconstitue les énergies, et ça c'est fait, donc on prend 40 millions de plus ou moins de photos par seconde, même plus, parce qu'on pourrait avoir plus de signal, on est obligé d'empiler les collisions, donc on va jusqu'à empiler 10-20 collisions à chaque croisement, de façon à être capable de sortir des événements. Donc c'est cette technologie-là qui a permis la détection de ces particules de très haute énergie, qui sont produites dans des collisions proton-proton, qu'il a fallu développer sur une vingtaine d'années.
Quand on étudie avec ces instruments, quand on pense constamment, comment on peut avoir les pieds sur terre? Comment on peut être émerveillé par le monde?
Ben, c'est émerveillant.
Ici, la ville de Nantes, par exemple, de se sortir...
Ben, on en sort quand même. Je pense que c'est encore plus merveilleux d'une certaine façon. Moi, je trouve extraordinairement poétique le fait que les étoiles ont dû mourir pour produire des noyaux lourds. Et si vous existez aujourd'hui, c'est parce que les étoiles sont mortes et ont vécu et sont mortes. Ben, c'est une histoire qui est extraordinairement poétique, et l'organisation de la matière qui mène à la complexité du monde qui nous entoure à partir de règles simples. Quand on comprend ces règles simples-là, est tout à fait fascinante. Donc, je crois que le monde qui nous entoure devient plus beau. Il ne devient pas moins beau. Il devient le fait de savoir comment c'est fait n'enlève pas à la poésie de la chose.
Non, mais c'est surtout dans l'idée que comment... Ou alors peut-être que vous y consacrez totalement votre vie et que vous ne prenez plus le temps d'aller, je ne sais pas, aller à la pêche ou...
Non, mais comme je disais, bon, j'ai toujours fait un peu, j'en fais plus beaucoup maintenant, mais j'ai toujours fait un peu de musique, donc il y a une détente, il y a un plaisir aussi en mathématiques ou en physique, un plaisir, la physique, à travailler la physique ou les équations ou les problèmes de physique, qui est finalement pas si différent du plaisir que l'on ressent à écouter une œuvre musicale. Donc il y a ces plaisirs-là existent quand même. Hein. On n'est pas détaché de la réalité. En fait.
Le sujet, c'est le boson de Higgs. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Moi, je connais pas du tout.
Ça ne me dit rien du tout non plus.
Pourtant, on en a beaucoup parlé. Approchez-vous, là. On en a beaucoup parlé.
Hein. Oui. Mais bon, il faut avoir été là pendant la période critique, effectivement, qui était de la fin juin jusqu'à la fin juillet, où à peu près tous les journaux en parlaient, en 2012. Mais
c'est pas une blague, hein.
Non. Ah bon, ça y ressemble.
Mais... Ah non, c'est pas. Non, ben, c'est très sérieux ce qu'on a fait.
Absolument.
Boson,
absolument.
Oui. Boson. Non. Oui. Mais bon, il faut s'intéresser un peu à la physique des particules. Mais je pensais que. C'est pour ça que je voulais faire une connexion avec la rue. Je pensais que même si on n'est pas spécialiste de la physique des particules et de la physique quantique,
On a entendu parler du CERN.
Du CERN, par exemple, du collisionneur, non? Vous avez entendu un peu parler, non? Des expériences? Rien du tout.
Non. Mais en fait, moi,
vous vivez sur Terre, non?
Je n'ai plus la télévision depuis plusieurs années et ça me convient très bien.
Non, mais. Non, je connais absolument pas. Pas du tout.
Vous n'allez pas repartir sans savoir.
Bah, c'est ce qui est à l'origine de la matière dans l'univers, c'est ce qui permet aux atomes d'exister, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de vivre. C'est quand même intéressant. Et c'est une découverte, peut-être la plus grande découverte du dernier siècle.
C'est-à-dire,
je viens de dire c'était quoi, je peux expliquer plus longtemps, il faut venir à la conférence. Donc c'est un champ qui est apparu au début de l'univers et qui donne la masse aux particules et qui permet d'expliquer l'origine des interactions fondamentales.
D'accord.
Ça vous laisse.
Vous voyez les têtes. Je m'y suis intéressé un peu à la physique, mais c'est un moment que je ne me suis pas plongé dedans.
Ah, okay. La science en général.
La science m'intéresse, oui. Mais c'est. En général, je lis plus de livres que je n'écoute la radio sur ce sujet.
Mais c'est encore trop récent.
Vous savez, la vulgarisation, Einstein, il a fallu 50 ans. Donc là, dans 30 ans, tout le monde connaîtra, je pense, cette théorie-là. Mais ça prend du temps avant, effectivement, de. Mais les livres commencent à sortir bientôt. Il y en a quelques-uns déjà.
Ça explique apparemment la masse de ce que vous, et les interactions, mais
la masse et la structure des interactions. Donc,
mais
en
fait, ça n'explique pas d'où vient la matière.
Ça explique absolument l'origine de la masse inertielle. Donc je peux maintenant vous faire apparaître la totalité de l'univers grâce au champ de Higgs, incluant la masse des particules et la masse des particules. Donc toute la masse de.
Oui, mais ça n'explique pas le pourquoi.
Là, vous connectez à autre chose. Ça dépend de ce qu'on appelle aussi le pourquoi. À partir du moment où on peut, à partir d'une fluctuation quantique, générer l'univers, on peut encore se demander pourquoi l'univers a été généré. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire comment il est apparu et pourquoi. Pourquoi dans le sens où comment, à partir des équations fondamentales et du champ de Higgs, la matière, de façon absolument irréversible, doit être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ensuite, on peut encore penser que... moi, je laisse le champ libre à chacun de penser que quelqu'un a ajusté les boutons quelque part pour que ça soit comme ça. Mais on peut aussi... ça dépend. On a le choix. Moi, je suis tout à fait respectueux de ça. J'ai pas besoin de l'hypothèse, de cette hypothèse-là pour faire la science.
C'est une question.
Mais dans ce sens-là, je pense qu'on peut dire... On peut pas expliquer dans le sens où s'il y a un dessin, d'accord? Ça, c'est autre chose. Mais tant qu'à savoir pourquoi les choses sont comme elles sont, ça, on commence à savoir.
Mais naturellement, ce qui est intéressant, naturellement, on va poser la question de Dieu à un moment donné dans les recherches scientifiques.
Oui, d'autant qu'il y a quelqu'un qui, plus ou moins sérieusement, avait appelé cette particule la particule de Dieu. On comprend pourquoi quand je raconte ces histoires-là. Mais c'est évidemment, ça fait une connexion qui est un petit peu dangereuse et qu'il vaut mieux éviter. Non, ça change rien. Ça change rien au fait que le fait d'imaginer que l'on comprend l'univers, en l'occurrence le champ de Higgs, ça commence un millième de milliardième de seconde après le Big Bang, donc après la première fluctuation quantique. Ben, donc on est capable de remonter à un millième de milliardième de seconde après le Big Bang. C'est pas encore le Big Bang, mais c'est pas loin. Et à partir de là, tout est assez compris maintenant. Maintenant, il y a encore plein de choses à trouver. Il y a encore plein d'inconnus. Il y a encore plein de paramètres dont on ne comprend même pas l'origine. Donc en fait, il y a encore énormément de choses extrêmement intéressantes à faire. Je peux dire qu'on a tout compris, mais disons qu'on a fait un pas extrêmement important avec cette découverte.
Merci à Yves Sirois, directeur de recherche au CNRS. Merci à Noémie et Stéphane pour leur libre participation à ce reportage, enregistré avec la complicité de Daniel Wörling, président de la Société d'astronomie de Nantes.